Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, le 12-30,
avec Céline Landreau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et en ce vendredi 26 juillet, la campagne fait rêver, mais la ruralité est délaissée. Le gouvernement veut donc lancer un agenda rural pour rendre ces territoires plus attractifs. 5 élus remettent aujourd'hui 200 propositions à la ministre Jacqueline Gourault. Le PR de Flamanville et ce calendrier qui s'étire toujours plus. EDF a reconnu ce matin que la mise en service du fleuron nucléaire français ne pourrait être envisagée avant fin 2022. 77 départements touchés aujourd'hui par les restrictions d'eau, des sols qui craquaient, la sécheresse qui se fait sentir, faut-il s'en inquiéter? Comment éviter les pénuries? On en parle tout à l'heure avec notre invitée, l'hydrologue Emma Aziza. La sécheresse qui dure, mais la canicule qui s'éloigne doucement. On respire à l'ouest, Valérie Quintin, mais 31 départements restent en alerte orange.
Alors, il y en a 24 pour la canicule exclusivement dans l'est, entre les Ardennes, l'Alsace et en descendant vers la Drôme, l'Ardèche, et ça concerne aussi les Alpes-Maritimes. Nous avons 6 départements en canicule, en vigilance canicule et orage. Là, ça va plutôt sur les régions du centre-est et puis un département, le Cantal, en vigilance pour de gros orages. Bref, pour l'instant, les orages sont plutôt à l'ouest en ce moment, alors qu'il est donc sur le Périgord, sur le Lot ou encore sur la Dordogne, des orages qui vont remonter peu à peu vers le nord du pays. Ça va s'intensifier cet après-midi avec cette chaleur qui perdure donc dans l'est. Ça risque de claquer assez fort ce soir sur le centre-est et sur l'est. Pour le soleil, donc, c'est à l'est évidemment, surtout qu'il sera présent aujourd'hui avant tout cela. Et les températures commencent enfin à baisser un petit peu. 22 degrés à Bordeaux cet après-midi, 24 au Havre, il en faisait 38 hier, 31 à Paris et à Saint-Quentin. Là, on était au-delà de 40, 35 sur Dijon, sur Besançon et Chambéry, maximum pour Lyon et Strasbourg avec 38 degrés.
Merci Valérie. Un coup d'œil sur la route. À présent, journée orange dans le sens des départs ce vendredi. Ça coince déjà dans l'ouest sur l'axe Paris-Bordeaux. Pierre Collard.
Oui, il a dit c'est très chargé en direction du sud et il y a plusieurs accidents qui bloquent la circulation. C'est le cas au kilomètre 80 entre Paris et Orléans, juste après la sortie 13. Vous êtes bloqué pendant 35 minutes. Ensuite, au sud de Niort, après la sortie 33 à La Rochelle, il y a 35 minutes de bouchon. Et un dernier accident sur cette A10 impliquant 4 véhicules après Sainte, la sortie 35, une demi-heure d'embouteillage. Et puis une portion de la 11 est fermée suite à un accident de poids lourd. Sortie obligatoire juste après le péage de Saint-Arnoult vers le sud. C'est la sortie 1 à Bly. Vous pouvez ensuite reprendre la 11 à hauteur de Chartres.
Merci Pierre. Le Tour de France, deuxième étape dans les Alpes aujourd'hui entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Avant le départ des coureurs, vous avez rendez-vous avec Christophe Paco, RTL, chez vous sur la route du Tour dans un gros quart d'heure. La question du jour sur RTL.fr. Habitants des villes, avez-vous envie de déménager à la campagne? Vous dites oui à 43%, non à 40%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter à partir de 13h, vous le savez, c'est vous qui prenez la parole pour réagir évidemment à tous ces sujets. Sécheresse, ruralité, on pourra aussi parler lecture. Racontez-nous vos coups de cœur de l'été. On attend vos appels au 3210 à partir de 13h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le gouvernement promet donc du cousu-main pour répondre au problème de la ruralité. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, reçoit aujourd'hui un rapport de 5 élus ruraux, des pistes pour réinvestir les villages et répondre à ce malaise qui s'est illustré notamment à travers les gilets jaunes. Ce sentiment prégnant d'être déclassé, délaissé. Évidemment, toutes ne seront pas retenues par le gouvernement, mais les élus proposent 200 mesures pour y remédier. Quelles sont les plus marquantes, Vincent Derosier?
Alors, les 5 rapporteurs s'intéressent tout particulièrement aux bourgs de 3 à 5 000 habitants et ils proposent de recréer des lieux de vie, par exemple en déployant 1000 cafés en zone rurale. Pas de vie possible sans médecin. Le rapport préconise de rendre obligatoires les stages des internes en milieu rural, ce qui représenterait, selon le texte, l'équivalent de 3 000 médecins immédiatement disponibles. Il faut aussi, selon eux, lutter contre l'isolement et garantir l'accès à un socle de services universels à moins de 30 minutes de trajet. Pour les familles et les jeunes, les écoles maternelles et primaires ne doivent pas être à plus de 20 minutes de temps de trajet, dit le rapport. Pour convaincre ces Français tentés par une nouvelle vie au vert, le rapport demande le maintien du prêt à taux zéro en secteur rural, mais aussi l'exonération de cotisations foncières des entreprises dans les communes de moins de 3500 habitants. Les rapporteurs conseillent d'ailleurs de poursuivre l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, de l'étendre à 30 nouveaux territoires ruraux. Pour travailler, il faut une voiture, en tout cas c'est plus simple. Les élus assurent qu'il faut relancer le permis à 1 euro par jour via un prêt à taux zéro. Enfin, pour tout ce qui concerne le numérique, le gouvernement promet de déployer le très haut débit, vous le savez, partout d'ici 2022. Le rapport va plus loin et demande d'ouvrir l'expérimentation de la 5G au territoire rural.
Vincent Derosier du service politique de RTL. On parlait il y a quelques minutes de vos conditions de circulation sur la route. C'est difficile aussi sur les rails. Aujourd'hui, grosse pagaille en fin de matinée, Gare du Nord, en raison d'un problème électrique. Le trafic reprend progressivement, Gare du Nord. Le retour à la normale est attendu en fin de journée. Du répit donc à l'ouest, Valérie vous le disait, la fraîcheur bienvenue s'installe sur une partie du pays. L'est, lui, continue à transpirer avec toujours 31 départements en alerte orange, canicule qui a aggravé l'assèchement des sols. Et pour en parler avec nous, nous accueillons maintenant l'hydrologue Emma Aziza, bonjour.
Bonjour.
77 départements sont donc actuellement visés par des restrictions d'eau et nous ne sommes que fin juillet, il y a de quoi s'inquiéter ?
Bien sûr, puisqu'on voit bien que c'est quasiment l'intégralité du territoire français qui est considéré. Avoir autant de territoires, 77 départements, c'est quand même colossal. Et on voit qu'on avait jusque-là des sécheresses surtout superficielles. Et là, on commence à avoir des premiers marqueurs en fait, de sécheresse dans les nappes profondes, notamment dans la région de Niort, qui commence à
dans
se marquer.
Donc,
effectivement, ça commence à devenir de plus en plus problématique.
Donc vous parlez d'une situation critique dans l'ouest du pays. Il y a d'autres zones comme ça où on sent que c'est qu'on est aussi dans une situation où la pénurie est très forte, pardon.
Ben, très clairement, dans toutes les zones où il y a une agriculture qui est très marquée, on sait très bien que tous les besoins en eau pour l'agriculture sont colossaux en France, puisque ça correspond quand même à 35% en fin de compte de la consommation en eau, notamment de par l'accentuation de toutes les surfaces irriguées qui se sont faites depuis la seconde partie du XXe siècle. Donc, on voit bien qu'on a une corrélation directe entre les usages agricoles. On voit aussi qu'il y a des problèmes sur les centrales nucléaires, sur les barrages hydroélectriques. On a comme ça des problèmes sociétaux qui se posent sur des zones où il y a eu ces sécheresses qui se sont mises en place, accrues par des canicules très sévères.
La solution, ce serait quoi alors? Peut-être d'aménager les bassins de rétention, comme c'est le cas par endroit pour stocker l'eau l'hiver, ça pourrait être une solution?
Effectivement, le fait de stocker l'eau, c'est une des solutions les plus immédiates à l'échelle individuelle. Ça peut être de l'eau dans son jardin pour son arrosage privé. À l'échelle plus collective, on est capable aujourd'hui de effectivement récupérer cette eau avant qu'elle reparte, si vous voulez, dans les milieux. Par contre, ça crée en général un problème. Les grandes retenues collinaires ou bien le fait de créer des barrages, c'est qu'une partie de cette eau va repartir en évaporation. Donc, c'est une partie qui est perdue. Mais vu les états de sécheresse et d'étiage très sévères que l'on est en train de vivre ces 4-5 dernières années, on a l'impression qu'on plonge chaque année dans un scénario un peu plus grave. Je pense qu'il faut se remettre en question effectivement et envisager toutes les solutions à l'ensemble des échelons. Là, on parlait du domaine agricole, mais ça peut être aussi dans le domaine des tissus économiques. Si vous voulez, il va falloir aussi trouver là encore d'autres solutions, peut-être pour recycler l'eau en circuit fermé. Il existe comme ça, si vous voulez, des solutions adaptées à chaque type d'enjeu. Et donc, il va falloir sans doute non seulement les préconiser, mais voire même les rendre obligatoires parce que on va se retrouver face à un véritable problème de la gestion globale de la ressource en eau en France.
Et, c'est une question d'urbanisme aussi, peut-être ?
Alors, l'urbanisme pose surtout un problème sur le plan de l'habitat et de sa vulnérabilité, parce que qui dit sécheresse et canicule dit bien souvent derrière des orages extrêmement sévères qui vont arriver avec des effets de ruissellement majeurs. Dès qu'on a une urbanisation qui n'est justement pas raisonnée et qui va être finalement mal pensée par rapport à ces risques extrêmes, on dit que en science du risque que l'aléa n'est que l'expression de la vulnérabilité d'un territoire. C'est-à-dire c'est que lorsqu'il y a un danger qui se met en place, que là on remarque effectivement là où on est particulièrement vulnérable. Donc toutes les zones qui sont extrêmement urbanisées, toutes les zones qui sont imperméabilisées par l'asphalte ou par des agricultures intensives qui font que les sols deviennent de plus en plus pauvres, tout simplement parce qu'ils n'ont plus assez de capacité de résistance face aux sécheresses, mais aussi face aux précipitations extrêmes, il va falloir mettre en place des solutions très rapidement.
Et on entend que vous appelez à une prise de conscience très rapide face à cette sécheresse assez intense, on le rappelle. 77 départements touchés actuellement par des restrictions d'eau. Merci beaucoup Emma Aziza d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Énième épisode d'un feuilleton qui n'est décidément pas terminé. La mise en place de l'EPR de Flamanville est encore repoussée et ne peut être envisagée avant fin 2022, a indiqué EDF. Au mieux, Sophie Jousselin, il y aura donc 10 ans de retard sur le projet de départ et une facture qui, par ailleurs, s'est envolée. Ça commence à ressembler à un fiasco.
Oui, puisque jamais les délais annoncés n'ont été tenus. La construction a commencé en 2007 et dès 2008, des défauts de fabrication apparaissaient, un défi fissures dans le radier, le socle en béton qui supporte le réacteur. Puis tout va s'enchaîner, les défauts de conception touchant à la sécurité, constatés par l'autorité de sûreté nucléaire, le béton des piliers de l'enceinte du réacteur, bourré de trous, des anomalies sur la cuve et le couvercle, les fameuses soudures à refaire, avec à la clé, à chaque fois, un report de la date de mise en service. Le coût de l'EPR augmente au rythme de ces retards. La facture de 3 milliards d'euros à l'origine est estimée pour l'instant à 14 milliards. Alors EDF doit étudier maintenant les différents scénarios pour refaire les 8 soudures, dont l'accès est très compliqué entre les deux murs de l'enceinte de confinement. Ce n'est donc pas avant fin 2022 que le réacteur pourrait fonctionner. L'EPR finlandais connaît le même sort, il est à plus de 10 ans de retard. Seuls les EPR chinois sont en fonctionnement, bien que construits plus tardivement. Mais la Chine n'a jamais cessé de construire des réacteurs nucléaires, donc a toujours les compétences pour le faire, alors que la France est restée de nombreuses années sans bâtir de nouvelle centrale.
Éclairage signé Sophie Jousselin pour RTL. Merci. On marque une pause dans RTL Midi dans un instant, direction Marseille, où une femme a confié ses 3 enfants à une connaissance et n'a plus de nouvelles depuis.
RTL Midi.
RTL élémentaire.
Bonjour, c'est Louis Baudin. Chaque samedi, je vous propose de découvrir la Terre au fil de l'eau, depuis les sommets enneigés jusqu'au littoral. Chaque semaine, un invité nous fait partager sa passion pour l'eau. Demain, je vous invite à une promenade le long des berges, des fleuves et rivières.
Élémentaire avec Louis Baudin, c'est demain à 13h sur RTL.
Pour que Jean continue de rire avec ses amis, que Juliette profite des récrés comme les autres, que Françoise partage encore des soirées théâtre avec son petit-fils et que Pierre assure lors de ses déjeuners d'affaires.
Tous les jours, les audioprothésistes Audilab sont à votre écoute. Retrouvez le centre Audilab proche de chez vous sur audilab.fr.
Audilab, ensemble pour une belle écoute.
Je suis née en France, je préserve la nature et je fais un délicieux expresso. Qui suis-je ? La nouvelle capsule Le Gall. Sans aluminium, je suis la première capsule végétale biodégradable. Je suis compatible avec les machines Nespresso. Goûtez-moi. La capsule végétale Le Gall fait tout pour le goût et la planète. Le Gall, le goût.
RTL Midi avec Céline Landreau.
Midi 43 sur RTL et 3 enfants introuvables à Marseille, confiés par leur mère à une vague connaissance mercredi dernier. La fillette de 3 ans et ses frères, des jumeaux d'un an, ont depuis disparu. Leur mère, une femme de 28 ans, a quant à elle été mise en examen pour soustraction aux obligations légales, Alice Moreno.
Oui, elle débarque d'un train en provenance de Poitiers sur le quai de la gare Saint-Charles de Marseille en début de soirée mercredi dernier avec ses 3 petits. Rapidement, elle retrouve une certaine Sabrina, une très jeune femme âgée de 18 ou 19 ans qu'elle connaît vaguement. Elle lui confie ses enfants dans le but, dit-elle, de chercher du travail. Mais selon nos confrères de la Provence, elle est en fait à Marseille pour se prostituer. Quelques jours plus tard, la mère se présente au commissariat de Noailles. Elle est sans nouvelles de ses enfants, ne parvient pas à retrouver celle à qui elle les a confiés. Un appel à témoins est alors diffusé en ville. Sabrina serait de petite taille, un peu forte, les cheveux châtains coupés au carré et les yeux marrons. La mère, sous contrôle judiciaire, a interdiction de quitter Marseille avec une obligation de soins car elle présente une addiction à la drogue. La brigade des mineurs des Bouches-du-Rhône est en charge des investigations.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex, elle est la 81e victime de l'année. Une femme de 43 ans a été tuée hier par son mari à Vénissieux, près de Lyon. Ce dernier l'a écrasée avec sa voiture contre un mur alors que poursuivi pour violence conjugale, il avait interdiction de l'approcher. L'homme a dans un premier temps pris la fuite avant de se rendre ensuite au commissariat. C'est, selon les Nations Unies, la pire tragédie en mer Méditerranée cette année. Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur bateau au large de la Libye. Une centaine d'autres ont pu être secourus. Julien Reckmann, chef de mission Libye pour Médecins Sans Frontières.
Ce sont des pêcheurs qui, heureusement, passaient par là, qui ont pu sauver une partie des personnes. Sur 135 personnes qui ont été prises à bord de ces bateaux, il y avait en réalité, à la base, environ 200 personnes. Évidemment, ceux qui ont été ramenés sont extrêmement choqués. Ce sont des personnes qui sont dans des états de fatigue effroyables. Voilà, il y a tout le chemin de la traversée du désert et puis de la Libye, pendant lequel ils subissent souvent des traitements effroyables. Et puis, donc, en plus, voilà, ce choc... Donc on a un papa qui a été sauvé in extremis mais qui a vu sa famille disparaître sous ses yeux. Donc évidemment, on a des gens qui sont extrêmement choqués, qui ne peuvent en aucun cas être renvoyés dans les centres de détention tels qu'ils sont aujourd'hui en Libye.
Julien Reckmann de Médecins Sans Frontières, joint pour RTL par Adrien Bagé. Le sort de WN est-il scellé? Le tribunal de commerce d'Amiens est actuellement réuni pour statuer sur les offres de reprise de l'industriel Picard, qui avait lui-même repris Whirlpool il y a un an. Mais malgré les aides publiques, WN se trouve aujourd'hui dans une impasse de trésorerie. L'entreprise a d'ailleurs été placée en mai dernier en redressement judiciaire, au grand désespoir des salariés qui manifestaient ce matin, Antoine Decarne.
Oui, ce matin, le cortège d'une cinquantaine d'ex-Whirlpool s'est arrêté symboliquement devant les casiers connectés de WN, l'entreprise qui était censée relancer l'activité de l'ex-usine de sèche-linge. Ce matin, les salariés sont surtout en colère contre un homme, Nicolas Decailleux, le repreneur qui leur avait promis la pérennité de leur emploi il y a un an. Delphine Lovinsky, présente dans l'usine depuis 22 ans.
Je me sens complètement dépitée. Moi, je sais déjà que je ne suis pas reprise et je ressens une énorme, énorme déception en fait. J'ai de la colère contre l'État, de la colère contre la région, de la colère contre Whirlpool pour ce manque de suivi. J'ai l'impression qu'on a été berné.
Depuis 11h, le tribunal de commerce d'Amiens reçoit les possibles repreneurs. Deux offres étaient sur la table ce matin. Celle de l'entreprise Ageco, déjà présente sur le site amiénois et qui propose la reprise de 44 salariés. Et celle d'un homme, Philippe Valton, cadre au sein de WN, dont le projet permet le maintien de 9 salariés. Pour le moment, la décision n'est toujours pas connue. Mais quoi qu'il arrive, ce sont près de 110 personnes qui devraient recevoir leur lettre de licenciement dans les prochains jours.
Antoine Decarne, Amiens pour RTL. Renault tiré vers le bas par Nissan. Au premier semestre, l'entreprise japonaise a coûté 21 millions d'euros au groupe Los Angeles, qui accuse par conséquent une baisse de son chiffre d'affaires, moins 6,4% par rapport au premier semestre 2018.